Radio Okapi.
Le journal Pascal Masserica.
Au sommaire de cette édition, montée de prix du carburant et de certaines denrées alimentaires au Grand Nord Kivu, c'est la conséquence de l'interruption du trafic entre Kassindi et Beni suite à l'effondrement le week-end dernier du pont jeté sous la rivière Loumé dans le territoire de Beni. 22 000 enfants de moins de 5 ans n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite à Nyankunde, au sud-ouest de la ville de Bunia, en Ituri. La campagne est boycottée par des notables qui dénoncent la communautarisation des postes dans les services de santé. Le gouverneur fustige cette attitude. Notre invité, c'est le chef d'antenne de la CNR à Uvira, au sud Kivu. Dominique Keleko affirme que la Commission nationale pour les réfugiés a facilité récemment les transferts de plus de 300 demandeurs d'asile burundais ayant récemment obtenu le statut de réfugié. Madame, messieurs, bonsoir. Le prix du carburant et de certaines denrées alimentaires est revu à la hausse au Grand Nord Kivu. C'est suite à l'interruption récemment du trafic entre Kassindi et Beni après l'effondrement du pont jeté sous la rivière Loumé dans les territoires de Beni. La population locale plaide pour une intervention urgente du gouvernement congolais et de ses principaux partenaires en ce moment où plusieurs véhicules ne peuvent pas joindre les villes de Beni et de Boutembo. Notamment pour en parler, Grévis Salomon.
Alors que la hausse des prix des carburants s'est fait observer dans les villes de Boutembo et Beni pendant plus d'une semaine à la suite de la carence du carburant sur les marchés, la situation a empiré samedi dernier après l'effondrement du pont jeté sur la rivière Loumé sur la RN4 entre Kassindi et Beniville. Conséquence, hausse du prix du carburant sur les marchés. Les prix des litres qui coûtaient 3000 francs à la pompe se vendent depuis le week-end dernier à 4000 francs congolais, voire 4500 francs. Chez les vendeurs, communément appelés Kadhafi, les prix des litres du carburant varient entre 4500 francs, 5000 francs, voire 6000 francs. Une autre conséquence, c'est la hausse du prix des transports en taxi. Katia Kanduki-Jackson, un des conducteurs des taxis-moto, abordé par les de la résistance ce jour des clients.
Face à cette situation avec les clients, il y a résistance. Par exemple, un client qui payait une course de 1000 francs, le convaincre pour payer 2000 francs, ça vient tout à fait une grande difficulté. Un message de déconstruire vite les pots pour que le carburant parvienne.
En dehors du carburant, le prix de certains produits qui proviennent de l'Ouganda via la cité frontalière de Kassindi-Loubiria a aussi grimpé. Par exemple, une plaquette d'œufs qui se négocie entre 6000 francs et 6500 francs à Beni se vend actuellement à 10000 francs depuis le week-end dernier, à en croire les revendeurs.
Au lendemain de l'effondrement du pont Loumé sur la route Beni-Kassindi, la branche de développement des forces conjointes FRDC et de l'armée ougandaise annonce la création d'une déviation à ce niveau-là. Le porte-parole de ces opérations militaires conjointes assure que l'entreprise d'autoservice est déjà à pied d'œuvre pour faciliter le passage de quelques véhicules en attendant la réhabilitation proprement dite de l'ouvrage. Le colonel Mac Azoukai est au micro d'André Kitenge.
Depuis hier, les ingénieurs de d'autres services sont au four et au moulin. Dans un premier temps, ils vont essayer de dégager le véhicule, la remorque. Et je crois que depuis ce matin, ils sont en train de chercher à créer une déviation pour permettre au véhicule de passer. Ça sera un peu difficile dans un premier temps parce que la zone n'est pas tellement bonne. Avec la configuration du terrain, ça va nous prendre un peu de temps. Mais on va faire un effort pour qu'au moins les petits véhicules puissent passer. Ça sera un peu compliqué à ce moment pour les remorques et les citernes. Donc ça sera un peu compliqué dans un premier temps. Mais sinon, d'autres vont dans un premier temps créer une déviation du côté gauche de la route dans la Banaère. Et peut-être dans un ou deux mois, on va relancer les travaux de la construction de ce pont-là. Parce que c'est la sortie, c'est la porte de la République démocratique du Congo, donc on doit se focaliser sur ça et travailler. Et ceux qui font régulièrement Beni Kassindi savent que sur ce tronçon-là, les FARDC et l'UPDF font la patrouille chaque jour, donc le problème de sécurité ne va pas se poser. Parce que c'est justement là où nos militaires sont en train de patrouiller.
Dans un autre chapitre, revenons un instant au Nord Kivu où il y a eu accrochage hier soir entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le parc national de Virunga, précisément dans les territoires de Nyiragongo. Des sources locales précisent que ces terroristes du M23 chercheraient à aller vers Sake. Le porte-parole des FARDC dans la région fait remarquer qu'en dépit des appels au cessez-le-feu, ces rebelles continuent d'attaquer les positions des FARDC. Et puis, la société civile de Mamové dans les territoires de Béni salue la calmie qui règne dans la région et qui a permis la libération hier dimanche de 10 otages entre les mains des rebelles ougandais de l'ADF. Le président de cette structure citoyenne recommande vivement au FARDC d'accroître leur position. Kinos Katuo le dit à André Kitenge.
La société civile remercie l'armée à travers la calmie qui est en train de s'observer dans notre localité, plus ou moins un mois, deux mois d'accalmie. C'est compte tenu du travail des patrouilles que l'armée est en train d'effectuer dans cette agglomération. Parmi ces travaux, il y a aussi des fruits dont 10 civils ont été vomis par l'ADF vers Ndaliakasoko. Parmi les 10, il y a au moins 3 civils de l'agglomération de Mamové de Beumanyama. Ces civils nous ont témoigné que l'ADF a érigé plusieurs bastions au bord de la rivière Samboko et Ituri, précisément vers Kasoko Iziro, aussi vers Akwekwe, tapis rouge. Ainsi, nous demandons au général qui est à commande aussi à Bounia de voir comment ériger les positions militaires vers Kasoko, Mamboumemboumé, tapis rouge, Kalalangwe, pour permettre aussi la collaboration directe de la population et l'armée.
Même son des cloches dans la province de l'Ituri où 12 otages des rebelles ougandais de l'ADF ont été libérés samedi soir dans la forêt du groupement de Banda Vilemba, chefferie de Walese Vonkutu, territoire du Rumu, selon des sources sécuritaires. C'est suite aux patrouilles des combats qui sont organisées par les FARDC dans la région de Zungunuka et de Mont Oyo. Cette action est saluée du reste par les structures locales de droits de l'homme. C'est ce que nous explique à Bounia Martial Kizabiamungu.
Ces personnes ont été prises en otage il y a environ une année par les rebelles des ADF dans les villages de Mugamba, Ofayi, Beou, Manyama, Loloa, Kasoko, Maimoya, Beou et Manyama. Parmi elles, il y a des femmes et enfants. Selon des témoignages recueillis auprès des otages par des sources locales, les terroristes des ADF ont érigé plusieurs bastions dans les collines de Boutadi, tout proche du village Otumaber dans la chefferie de Walese Vokutu. C'est de là que ces rebelles planifient les attaques contre les civils dans cette région. L'ONG de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, salue cette intervention des FARDC qui a permis de sauver ces personnes qui ont déjà retrouvé leur famille. Elle plaide cependant pour le renforcement des positions militaires à Kasoko, au tapis rouge, Mamboumemboumé, aussi vers Kalalangwe. Cette structure plaide également pour l'intensification des opérations militaires contre les terroristes des ADF. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Économie à présent. Un incendie a ravagé une station-service samedi dernier à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les pétroliers disent avoir perdu à l'occasion environ 35 000 dollars américains. 100 camions anti-incendie dans une ville d'au moins 2 millions d'habitants. Ces pétroliers redoutent le pire si rien n'est fait au plus vite. Un reportage de Jean Kassami Baralibirou.
Les témoins rapportent que l'incendie est survenu lors du ravitaillement en carburant du tank de cette station-service située à la place Moulamba, en face de deux grandes écoles de la ville, notamment le collège Al-Fajiri et le lycée Chirezi. Les travailleurs de la station se sont démenés seuls au milieu d'une foule qui les contemplait impuissants. Ils sont parvenus à maîtriser la flamme grâce aux extincteurs empruntés chez une maison commerciale voisine. Aujourd'hui, la Fédération des entreprises du Congo FEC se demande pourquoi une ville comme Bukavu ne dispose-t-elle pas d'un seul camion anti-incendie.
Ce n'est pas la première fois au niveau du marché de Nyawera. Petrox a eu le même problème. Il y a eu des pompistes brûlés. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'a pas eu de cas de mort ni de brûlés. On n'est pas protégé. La province pouvait acheter les camions incendies par les recettes d'EPMR. Nous ne pouvons même pas attendre ça dedans. Nous avons la capacité, rien que par semaine, d'avoir un camion incendie qui peut protéger en même temps les pétroliers et en même temps les immeubles des citoyens.
L'unique camion anti-incendie de la mairie, dont de la Monisco, est tombé dans un ravin lors d'une intervention il y a de cela 2 ans. Depuis, la ville fait difficilement face aux multiples cas d'incendie signalés régulièrement ci et là. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Non loin de la Agoma, chef-lieu du Nord Kivu, des vendeuses et des vendeurs des souliers usagés du marché Amani Maindeleo au quartier Moura ont tout perdu dans un incendie qui s'est déclaré hier soir. L'un des plus grands de la ville de Goma, ce marché est fréquenté même par des étrangers. L'origine du feu reste un mystère en ce moment. Le récit de Denise Loukesso.
L'émotion est encore perceptible, c'est lundi matin, sur les visages des victimes dont certaines ont passé la nuit sur place. La flamme encore visible. C'est le cas de Madame Mouamini, inconsolable, qui a tout perdu, ne sachant comment rembourser les crédits qui constituaient son capital.
Nous avons tout perdu, nous ne savons quoi faire. Nous exerçons avec des crédits bancaires. Nous implorons à notre président Tshisekedi de nous venir en aide, nous les mamans. Les banques vont nous tuer.
Ces marchés qui abritaient au moins 500 commerçants grossistes comme détaillants comptent au moins 700 étagères. La vice-présidente Micheline Anatocha parle des pertes énormes.
Le problème est très sérieux. 400 personnes, c'est très grave. Vous savez que c'est nous les mamans qui prenons nos ménages en charge. Conséquence, nos enfants ne vont plus étudier et ne vont plus manger car nous avons tout perdu. On a voulu sauver la situation, mais en vain, nous n'avons plus rien.
Si l'origine du feu n'est pas identifiée, les membres du comité du dit marché parlent déjà d'un incendie d'origine criminelle. Ils appellent l'autorité provinciale à trancher sur les conflits qui les opposeraient à une aile concurrentielle. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Ouvrons maintenant une page santé. En Ituri, environ 22 000 enfants de moins de 5 ans n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite dans la zone de santé de Nyankoundé, située à 45 km au sud-ouest de la ville de Bounia. Selon des sources concordantes, les notables ont boycotté cette campagne de vaccination pour dénoncer la communautarisation des postes dans les services de santé. Le gouverneur de province condamne cette attitude qui prive les enfants de leurs droits aux soins de santé. Il annonce que les démarches sont en cours pour dissuader les leaders communautaires. Radio Okapi Bounia, Isaac Remoyope.
Ces chiffres de 22 000 enfants non vaccinés contre la poliomyélite ont été fournis la semaine dernière au gouverneur de province lors de la réunion d'évaluation de la campagne qui s'est déroulée du 12 au 14 novembre dernier. Selon des sources concordantes, des agents vaccinateurs ont été déployés dans cette entité sanitaire, mais ils ont fait l'objet des menaces des membres des communautés locales et même des hommes armés qui circulent dans la zone. Ces derniers dénoncent la communautarisation des postes dans les services de santé. Ils exigent la nomination des autochtones à la tête des zones de santé et des structures sanitaires implantées dans leur milieu. Le gouverneur de province condamne cette démarche qui prive les enfants de leur droit à la santé. Le général Johnny Luboya Kachama ajoute que les démarches sont en cours pour des pourparlers avec les communautés locales pour les faire revenir à la raison.
Nous avons aussi eu les revendications de ces populations Bira. Nous allons voir ça, mais je ne pense pas qu'il faille, n'est-ce pas, laisser les enfants comme ça non vaccinés, tout simplement que parce qu'il n'y a pas de médecin Bira. Non, nous sommes en train de parler avec les communautés pour qu'ils comprennent.
Plusieurs enfants n'ont pas été également vaccinés contre la poliomyélite dans d'autres coins du territoire du Rumu où les rebelles des ADF sont actifs. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque du massacre survenu le 28 septembre, a été appelé à donner sa version des faits ce lundi matin. La répression meurtrière avait fait 157 morts, des centaines de blessés graves et plus de 100 femmes violées. Le Kremlin a annoncé ce lundi que le président russe Vladimir Poutine ne fera pas sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année 2022. Le contexte des revers militaires accumulés ces jours-ci par la Russie en Ukraine et des sanctions occidentales imposées à Moscou n'est pas étranger à cette décision. Et puis, un mouvement social inédit risque de gâcher les fêtes de fin d'année au Royaume-Uni. Presque tous les secteurs de la vie nationale sont concernés. La poste, les hôpitaux, les transports ferroviaires et aériens, les fonctionnaires de l'État ou encore les agents des polices aux frontières dans les aéroports. Leur syndicat réclame des hausses sensibles des salaires dans un contexte de forte inflation.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne de la CNR à Uvira au Sud Kivu. Dominique Keleko affirme que la Commission nationale pour les réfugiés a facilité récemment les transferts de plus de 300 demandeurs d'asile burundais ayant récemment obtenu le statut de réfugié. Il s'agit des femmes et des enfants qui ont quitté le centre de transit de Kavimvira pour rejoindre le camp des réfugiés de Mulongwe. Il s'entretient avec Fiston Goma Mayabala.
Dominique Keleko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, antenne d'Ouvira. Vous procédez aujourd'hui au transfert des réfugiés burundais vers le camp de Mulongwe, en territoire de Fizi. Combien sont-ils et d'où viennent-ils?
Merci beaucoup pour cette question capitale par rapport à la protection des réfugiés. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, accueille de plus en plus de demandeurs d'asile en provenance du Burundi. Actuellement, la commission d'éligibilité a reconnu certains des demandeurs d'asile, les a octroyé le statut de réfugié. Et dans le processus, c'est que une fois le statut de réfugié est acquis, ces réfugiés doivent aller vivre dans les camps. Parce que ici, nous sommes dans un centre de transit où il ne peut pas passer beaucoup de temps. Ou ici, à Kavimvira. Pour le combat d'aujourd'hui, nous allons amener 97 ménages de 305 personnes qui vont se rendre dans les camps de Mulongwe, dans les territoires de Fizi.
Quand vous parlez du comité d'éligibilité, est-ce que le service congolais ont été associés à ces comités ici pour donner le statut de réfugié à ces personnes?
Oui, la commission d'éligibilité, comme la loi portant statut des réfugiés le précise, c'est une plateforme qui réunit plusieurs ministères et plusieurs services, notamment la DGM, l'ANR, la police, l'armée et d'autres ministères aussi, parce que nous relevons du ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères, de la Défense. Vraiment, c'est une plateforme. C'est là où on prend la décision pour octroyer le statut de réfugié. Et donc ces gens sont déjà reconnus comme réfugiés. Et comme ils sont reconnus comme réfugiés, ils doivent aller vivre dans les camps des réfugiés qui a été conçu pour les accueillir. Ils sont reconnus par la République démocratique du Congo à travers la Commission nationale pour les réfugiés, à travers la commission d'éligibilité, parce qu'ils ont fait des demandes d'asile. Alors il est temps de traiter leur dossier, ainsi de suite. Et voilà, la décision est tombée. La commission d'éligibilité, qui est présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, a octroyé le statut des réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes au niveau provincial, nous ne pouvons qu'exécuter, c'est-à-dire prendre ces réfugiés qui sont déjà reconnus comme tels et les amener dans les camps. C'est là où ils vont vivre, passer tout le reste des temps de leur refuge.
Qu'est-ce qui expliquerait cette demande d'asile de ces personnes sur le sol congolais, alors qu'au même moment, il y a des réfugiés burundais qui se portent garants volontairement, qui retournent chez eux?
Bon, cela peut sembler comme un paradoxe, mais ce sont des réalités que nous vivons. Je ne peux pas m'étaler pour vous dire clairement qu'est-ce qui les a poussés, mais au regard de la définition de réfugiés, nous avons des critères qui sont bien définis dans la loi et dans les conventions qui...
Qu'est-ce qui motive leur réfugié?
Il y a dans tout ce qui justifie le réfugié, il y a la notion de persécution. C'est là où nous travaillons, même avec les autres services étatiques, pour...
La persécution dans leur pays?
L'idée générale, pour dans les critères, il y a cette notion de la persécution qui existe, qui fait que la personne est obligée de quitter son pays d'origine pour trouver protection dans un autre pays. Donc, à l'occurrence, donc ce qui arrive. Et croyez-moi, c'est un processus. Ce n'est pas automatique quand quelqu'un arrive, bien qu'il puisse s'expliquer. Nous passons par ce que nous appelons le screening. Et même au niveau local, nous faisons le screening avec les autres services étatiques. Lorsque le comité qui forme ce screening, ils vont être convaincus que la personne s'est exprimée, a donné ses raisons qui sont conformes à la loi, à ce moment, on peut les retenir comme demandeurs d'asile. Et là, nous allons passer par la deuxième phase, c'est l'enregistrement biométrique. Et puis, nous allons transmettre les listes à qui des droits, à la commission d'éligibilité pour décider.
Est-ce que ce mouvement de transfert vers le camp des réfugiés de Mulongwe interrompt en même temps le rapatriement volontaire des autres réfugiés ici?
Non, ça n'interrompt pas. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer aussi des convois de rapatriement. C'est tous ceux qui ont passé plusieurs années dans les camps, à Lusenda et à Mulongwe. Il n'y a pas longtemps, nous avons effectué aussi les rapatriements. Donc, c'est volontaire. Ceux qui veulent partir, on ne peut pas les empêcher de partir. Et ceux qui arrivent présentent les raisons pour lesquelles ils ont poussé à quitter leur pays. Nous analysons la situation et nous transmettons les listes pour la décision finale, c'est-à-dire l'octroi des statuts de réfugiés. réfugiés. Donc c'est un peu ça, du point de vue de la population, ils ne peuvent pas comprendre qu'au même moment, il y a des réfugiés qui rentrent et au même moment, nous recevons les demandeurs d'asile. Mais ce sont des réalités. Et actuellement, par exemple, nous avons plus de 1000 demandeurs d'asile à Sangué et actuellement, les collègues sont en train de procéder à leur enregistrement biométrique.
Merci beaucoup, Monsieur Dominique.
Merci à vous également.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef d'antenne de la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés à Uvira. Dominique Keleko était interviewé par Fiston Goma Mayabala. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchige.